Radio Scénique, Éric Deterre, bonjour. Pour parodier le titre du film de Vadim, on pourrait dire que Dieu créa la femme, femme qui elle-même fit œuvre de création à son tour. Ce sont en effet deux parcours de création de deux femmes que nous allons examiner ensemble, grâce aux deux spectacles présents sur les scènes parisiennes. Le premier de ces parcours, c'est celui de Kelly Ruisseau, alias Kelly Rivière, à moins que ce soit le contraire, on verra avec elle. Sous le titre de La vie rêvée, le spectacle bientôt présenté au Théâtre La Bruyère nous propose de suivre la vie d'une femme qui rêvait d'être danseuse. C'est Kelly Rivière, son autrice et interprète, qui est avec nous en studio et qui viendra nous en parler. L'autre parcours, c'est celui d'une certaine sœur de... Bon, vous ne le saviez pas et nous non plus, mais William Shakespeare avait une sœur. Si, si. Enfin, du moins, si on en croit le titre du spectacle que Juliette Marie propose au studio Héberto. Il s'appelle en effet La sœur de Shakespeare et Juliette Marie est accompagnée de Inès Amoura, l'une de ses deux comédiennes. Femmes et création, voici donc le programme de cette 28e édition de Radio Scénique. On aurait d'ailleurs pu intituler cette édition « La vie rêvée de la sœur de Shakespeare ». Radio Scénique, c'est parti.
Radio Scénique par Éric Deterre. Le théâtre sur Aligre FM.
2025, sur les plateaux sauvages, sur la scène des plateaux sauvages dans le 20e à Paris, on découvre la vie rêvée. Deuxième volet d'une saga que la comédienne Kelly Rivière avait débuté avec An Irish Story. Extrait.
Merci. Merci infiniment. Pardon, je suis très émue. Je ne sais pas si j'ai manqué à la danse. Mais à moi, la danse a manqué. Follement. Et perdument. Douloureusement. Votre témoignage, votre amour, me font penser que peut-être, je dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
Et alors, mon petit tout, qu'est-ce que tu fais là, toute seule, à parler toute seule? Ah, coucou, mamie. Tu roumègues encore ton échec avec la danse?
Ah, ça, non. C'est rien.
Et si, je le vois bien que tu roumègues. Tu sais, moi, je vois tout de là-haut. C'est pas bon de rouméguer comme ça. Et puis, imagine si tu avais continué la danse. Aujourd'hui, tu serais à la retraite, depuis longtemps déjà, pétri d'arthrose. Et crois-moi, l'arthrose, c'est pas rigolo, hein. Tiens, d'ailleurs, sois gentille, fais-moi une petite place. Oh, qu'on est bien ici. C'est chic, toutes ces lumières, ce rideau. Eh bien, tu peux être fière de toi, mon petit tout.
Kelly Rivière, bonjour.
Bonjour.
C'est donc la reprise de votre spectacle. On est ici au tout début. On va décrire à l'auditeur ce qui se passe tout en précisant, on a tout petit peu trafiqué l'enregistrement parce qu'il y a tout un long moment où il se passe des choses sur le plateau mais qui ne sont pas traduites par du texte. Ouais. On est où là dans le spectacle tout début?
Tout début, on est, ça c'est une bonne question, on est où? Parce qu'on est, je pense, dans... un espace rêvé, enfin, c'est-à-dire que la scénographie, pour ne pas la dévoiler totalement, mais c'est quand même un plateau de théâtre avec un espace délimité par des plumes, il y a un piano, il y a un rideau de fond de scène, mais on est peut-être dans la tête de Kelly Ruisseau, donc hein, mon alter ego, qui démarre avec cette scène où elle s'imagine dire à la fois... pas adieu à son public, mais voilà, je ne suis pas tout à fait morte. Elle s'imagine être devant une grande salle de danse et dire à son public merci d'être encore là. Et puis après, on remonte le temps et on est avec sa grand-mère venue de l'au-delà qui va lui dire mais qu'est-ce que tu fais là, et toute seule sur scène.
Voilà. Parce que le rêve de Kelly Ruisseau, c'était la scène, mais la scène avec des chaussons de danse, ouais. Elle se rêvait danseuse.
Oui, ça c'était son rêve de jeune fille, de petite fille même, de jeune fille. Et puis très tôt, on va lui dire que ça va, c'est pas possible, puisqu'elle n'a pas le physique adapté pour être danseuse classique.
Elle a le coup de pied en fer
à repasser. Elle a le cuisseau trop trapu, elle n'a pas la bonne taille, elle n'a pas les bonnes jambes. Donc qu'est-ce qu'on fait contre... son propre physique qui ne nous permet pas d'accéder à son rêve. Voilà, c'est le premier empêchement. Et comment ça va déterminer, c'est une sorte de couperet qui tombe et qui veut dire la vie d'artiste, c'est pas pour toi, très tôt, à 13 ans. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait d'un rêve brisé? Et est-ce qu'on s'y accroche?
Kelly Rivière, vous appelez sur cette Kelly Ruisseau, c'est vraiment un tout petit pas de côté pour justifier. Est-ce que c'est une manière d'universaliser un peu le propos en vous éloignant de votre nom tout en étant très proche?
Bah oui, là tout à l'heure vous avez dit on a trafiqué un petit peu la bande, on trafique toujours, hein, voilà, on trafique toujours au théâtre par rapport à la réalité. Donc ça c'est venu sur mon premier spectacle, An Irish Story. Au départ j'avais changé aucun prénom de mon père, de ma mère, de mon frère, et c'était assez perturbant, c'était même, je le vivais pas très bien, après les improvisations j'étais mal, je me disais mais j'ai pas le droit de faire ça sur ma famille. Et c'est une de mes collaboratrices artistiques sur Irish Story, Sarah Siré, qui m'a dit faudrait peut-être changer les noms, les prénoms. Et de là, j'ai pas changé Kelly, puisque je parle quand même, le personnage, un des personnages principaux c'est Kelly, mais le fait de changer Rivière en Ruisseau, eh ben c'est le petit pas de côté, l'intrusion de la fiction dans la réalité qui permet de se lâcher, et tout d'un coup ça devient des personnages, c'est moi mais c'est pas moi, c'est ma mère mais c'est pas ma mère. Voilà.
Vous avez dit quelque chose tout à l'heure hors antenne, je vous ai demandé si vous alliez en Avignon, vous avez dit non, je vais me reposer un peu de moi-même.
Alors je dis tout le temps ça, puis en fait une date en entraîne une autre, et puis ça fait longtemps que je joue quand même beaucoup. Mais oui, le seul en scène, ça a de particulier que on tisse un lien très singulier avec le public, unique, que j'ai pas expérimenté dans les scènes collectives, dans les pièces plus collectives. Vraiment, il se tisse une histoire entre moi et le public, si je puis dire, c'est pas trop prétentieux. Mais par contre, on se charge beaucoup aussi, quoi, on porte tout. De se dire qu'on va rentrer sur scène et on va rester une heure et demie toute seule, et s'il y a quoi que ce soit, il faut réagir soi-même. On est à la fois en train de jouer, de se regarder jouer, de se dire, de se corriger, de s'auto-corriger. C'est une grosse charge, et donc je pense que parfois il faut prendre des vacances de soi-même. Ouais.
Alors de la danse au théâtre, parce que finalement Kelly Ruisseau, elle va trouver une échappatoire à sa volonté d'art dans le théâtre. Il y a une renonciation à une discipline uniquement versée vers le corps pour une discipline mixte entre corps et verbe, parce que son corps, il l'a trahi quelque part.
Oui, complètement. Et ça, j'en avais pas conscience. Parce que j'étais jeune, j'avais 13 ans quand j'ai passé ce concours du
Qui parle?
Ouais, Kelly Rivière, là. C'est donc ça m'est arrivé, de vouloir faire de la danse. Et qu'on vous dise à 13 ans, en tout cas, ça ne va pas être possible. Pas cette danse-là, peut-être contemporaine, peut-être jazz, mais bon, moi...
En gros, t'es trop grosse, t'es trop rablée, t'as deux cuissots, trop...
Enfin, voilà. Ouais, trop trapue. Voilà, ce qui était, quelque part, je me dis heureusement qu'on me l'a dit assez tôt et que ce n'est pas la peine de pousser un enfant aussi dans une trajectoire où il va se casser les dents de toute façon. Mais c'est du coup un rapport au corps particulier après. Et effectivement, la vie rêvée, ça parle aussi, c'est aussi pour rendre hommage à un ami qui est disparu quand il avait 30 ans d'une tumeur au cerveau. Ça m'a énormément marqué. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très, très gai, mais c'est aussi le corps qui lâche à un autre endroit, qui lâche par la maladie, qui lâche là définitivement. Donc oui, c'est aussi un spectacle sur la persévérance, contre quoi on lutte pour quand même accéder à une vie, à un rêve qu'on voudrait voir se réaliser quand même.
Kelly Ruisseau, elle a 40 ans, ouais, un peu plus, ça dites-vous en levant les yeux.
Oui, parce que sa mère lui dit « tu as 45 ans ».
Est-ce que la question du corps, elle est plus prégnante chez une femme? Parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est la création par les femmes. Est-ce que le corps, il est plus prégnant pour les femmes que pour l'homme?
Ah ben moi je pense...
Dans les disciplines artistiques du moins,
oui,
c'est de
moi
ça
je
dont
pense
on parle.
Quand même, ouais. Je pense que le corps se modifie au fil des ans et qu'on a quand même plus de mal à accepter chez les actrices, j'en parle même pas des danseuses, qu'un corps se modifie. On dit oh là là, qu'est-ce qu'elle a, pris cher, si elle grossit, si elle se modifie en fait. On a encore peu de modèles d'actrices, je trouve, qui vieillissent naturellement et... où on pourrait valoriser ce naturel et trouver ça normal et beau. C'est une métamorphose. Donc oui, c'est aussi une des thématiques que j'aborde de manière humoristique dans le spectacle. Mais qu'est-ce que c'est que de vieillir avec un corps aussi?
Alors humoristique, le spectacle l'est. Il est même parfois drôlatique. Vous racontez votre vie de galère de comédienne. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Kelly Ruisseau? Elle fait tout et n'importe quoi.
Il se passe qu'à partir de ce moment où le rêve initial est brisé, Moi, j'abandonne. Enfin, Kelly Russo, Kelly Rivière, hein, abandonne pendant une dizaine d'années toute ambition artistique. Donc, je reprends tard le théâtre. Je reprends à 23, 25 ans. Ce qui est tard, en fait. Je commence à comprendre très tôt qu'on me dit, à 25 ans, ouais, t'as peu de chances que ça décolle, vraiment. Donc, on fait beaucoup de choses pour gagner sa vie, qui sont éloignées du grand rêve de théâtre, des grandes scènes.
Parce que comédien, ça veut tout dire. Comédienne, ça veut tout dire. Il y a des comédiens et des comédiennes partout, au parc Disney.
Voilà.
Dans des reconstitutions historiques, au Puy du Fou.
En entreprise, pour faire du team building. Le théâtre peut s'immiscer dans tout plein d'endroits. Mais c'est aussi à travers cette pièce et à travers certaines scènes que je décris cocasses de tout ça, de tous ces petits boulots qu'on fait pour essayer de gagner sa vie, c'est aussi un hommage au théâtre sous toutes ses formes. Parce que j'ai parfois vu des choses artistiques qui m'ont beaucoup émue dans des endroits pas du tout élitistes, pas du tout valorisés. Voilà, il peut s'avérer, je me souviens d'une murder party à laquelle je participais. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là dans ce château, habillé en soubrette, pour des gens qui sont venus participer en entreprise à cette animation. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et en même temps, il y avait un comédien qui était magicien à ses heures perdues et qui, à la fin de la journée, nous a fait un tour de magie. Et je me suis dit, bel théâtre, il est là, malgré tout. Quand on en a envie, il y a quelque chose qui me touche dans la persévérance d'un jeune comédien, d'une jeune comédienne, ou même moins jeune, de résister malgré toutes les attaques que la vie peut nous faire, que l'entourage aussi peut nous faire. Parce que tu vas faire une murder party, t'as 45 ans, c'est la loose, quoi. Oui, mais quelque chose peut en émerger quand même. C'était une façon de rendre hommage à tout ça, à tous ces gens. Voilà.
C'est intéressant et c'est loin de cette espèce de regard surplombant dont on prétend que les comédiens sont affublés, dont on prétend que les comédiens exercent sur leur propre métier. Ouais. Finalement, vous avez un regard modeste sur votre métier. Regard bienveillant sur tous les aspects.
Oui, parce que les comédiens, les comédiennes sont aussi des gens parfois excessifs, irritants, enfin, dans leur ego, moi, ils parlent beaucoup d'eux, ils se penchent beaucoup sur eux, c'est normal, on est son propre.
Et c'est quelqu'un qui fait un seul en scène qui vous le dit.
Complètement, mais c'est pour ça que le personnage de ma mère est ce personnage qui vient dire tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais à tout le temps parler toute seule de ta vie? Mais tu crois que ça intéresse les gens? Et je comprends qu'on porte ce regard-là, je me fatigue de moi-même, moi aussi. Mais en même temps, ce sont souvent de grands rêveurs, de grands enfants. La culture est quand même attaquée aujourd'hui à plein d'endroits. Et c'était une façon de... C'est un peu casse-gueule de rentrer dans ces sujets-là quand on est comédien, de parler du théâtre. On le sait très bien. Beaucoup de gens au début m'ont dit « T'es sûr, tu veux parler de ça ?» Les comédiens qui font des spectacles sur le théâtre...
Mais c'est ce que j'allais vous dire, on en a beaucoup qui analysent leur parcours.
Voilà.
On en a qui en profitent pour parler de leur identité sexuelle. Ici, on a reçu Michael Delis qui a... Alors, vous ne partagez pas la même mère, mais il a une mère tout à fait particulière aussi. Ça reste des regards intéressants, mais... Toujours sous cette même forme de seul en scène.
Mais il faut dire que ça ne parle pas que de ça, la vie rêvée. Ça parle aussi des gens qu'on perd, des disparus. Comment on vit avec ces disparus, avec ces fantômes, puisqu'il y a quand même cet ami qui est parti très tôt, auquel j'avais envie de rendre hommage parce qu'on a démarré ensemble le théâtre. On avait ces grands rêves de théâtre. Et quand justement je me perdais dans des chemins de traverse, je me disais, pense à lui, il n'est plus là. Et quand même... S'il te regarde de là-haut, il serait heureux de voir que tu continues. Donc j'ai une sorte de promesse qui me lie à lui, ou en tout cas que je me suis inventée. Il y a la figure de ma grand-mère qui était une enfant abandonnée. Donc pareil, c'était envie de... qui nous a donné beaucoup d'amour. Donc c'était envie de lui rendre hommage en disant comment, alors qu'on a été abandonné à sa naissance par sa propre mère, on donne de l'amour quand même. Voilà, c'est aussi un spectacle qui... Il est difficile à résumer parce qu'il ouvre plein de petites choses comme ça. Mais ça n'est pas que sur la vie de comédien. Il se trouve que c'est mon médium, le théâtre, donc c'est comme ça que je raconte des histoires, mais j'aurais pu le faire autrement.
Alors, vous me faites une transition toute idéale, puisque ce qui fait la force de votre spectacle, c'est la galerie des personnages aussi. Dans cet extrait, on va en entendre quelques-uns, puis on les détaillera avec vous ensuite.
Je fais que on va coloniser le ciel. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les jeunes oiseaux chantent avec la lumière. Et moi je fais l'amour la nuit comme le jour. Je fais l'amour la nuit comme le jour. On tire des plans sur la comète. On inventorie le ciel bleu. On proclame des découvertes. Et les gens ne sont pas heureux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les jeunes oiseaux chantent avec la lumière. Et moi je fais l'amour la nuit comme le jour. Je fais l'amour la nuit comme le jour. Tu me regardes quand tu marches. Je vois le monde avec tes yeux. Et si jamais l'ombre nous cache, nous n'en serons que plus heureux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les jeunes oiseaux chantent avec la lumière. Et moi je fais l'amour la nuit comme le jour. Je fais l'amour.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et avec Kelly Rivière, on parle de la vie et de la vie rêvée. On parlait tout à l'heure de la galerie de personnages de votre spectacle, Kelly Rivière. On en écoute un bel échantillonnage.
Action, comme on dit. I mean, honestly, il faut regarder les choses en face. Tu as 45 ans, Kelly. Maybe it's over. On est peut-être en train de t'envoyer un message qu'il n'est pas inutile de savoir réceptionner. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a une gueule lambda. C'est une femme usée par la vie. Elle est fatiguée, fatiguée, fatiguée au bout du rouleau. C'est pour ça que ton agent a pensé à toi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma maman. Mémé Fifi. Elle est morte. Mémé Fifi, elle est morte depuis longtemps, mamie. Énorme, chère. C'était cette nuit. On est là pour s'amuser. Qui dit s'amuser dit jouer. Qui dit jouer dit jeu. Et qui dit jeu dit... moi. Et qu'as-tu de si important à dire? À part moi, moi, moi. D'ailleurs, à qui tu parles, là? Tu joues toute seule?
Alors justement, votre mère conclut par à qui tu parles. On va détailler les personnages auparavant. Il y a dans l'ordre une directrice de casting.
Oui, qui donne plein d'indications contradictoires. Et c'est un casting que Kelly Ruisseau va rater globalement parce qu'elle ne va pas réussir à répondre à toutes les indications de jeu.
C'est du type « fais-moi l'arbre », oui, mais l'arbre avec des feuilles,
c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Attends, va reprendre. Attends, mais tu ne peux pas dire ça. Voilà, elle est perdue dans toutes ces indications.
Ensuite, il y a votre mère. On va s'arrêter un tout petit peu sur votre mère. Donc, vous êtes d'une famille franco-irlandaise. Oui. Ou Kelly Ruisseau, pardon, est d'une famille franco-irlandaise. Et votre mère, c'est un petit peu la goutte de fiel sous la parole bienveillante.
Bah, c'est un peu ça. C'est un peu le personnage. Moi, je ne me rends pas compte parce que c'est quand même le clown du spectacle, beaucoup. Enfin, en tout cas, dans An Irish Story, c'est devenu... Je pensais avoir écrit une tragédie en écrivant Irish Story. Pas du tout, c'est devenu... une tragicomédie, mais beaucoup, il y avait beaucoup de choses drôles qui ressortaient, et notamment par le personnage de la mère. Et on m'a dit après, parce que moi je ne me vois pas jouer, je ne vois pas ce que ça produit, mais on me dit, en gros, ta mère, c'est celle qui dit les choses qu'on ne dit pas d'habitude, quoi. Voilà, du genre, tu as 45 ans, maybe it's over pour ton métier de comédienne. Je pense que c'est des choses que les gens peuvent penser, mais n'osent pas dire. Donc c'est oui, le personnage qui dit ce qui fait mal, mais toujours avec une bonne intention. Je te l'ai dit pour toi, peut-être tu peux changer de métier, quoi. Voilà, c'est bien intentionné, mais c'est bien cassant en général.
Et votre mère, elle a vu le spectacle?
Non. Oui, pardon. Silence.
Silence absolu.
Non, et j'espère qu'elle n'écoute pas Radio Aligre. Non, celui-là, non. Je pense que c'est too much.
D'accord. Alors ensuite, on va essayer de reprendre. Ensuite, il y a à nouveau une casteuse. Hein.
Oui. C'est celle qui mène la murder party.
Ah oui, 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 crois, pardon. Voilà.
Animatrice, très enthousiaste, à fond dans ce qu'elle fait. C'est ça aussi que je trouve toujours touchant, les gens qui sont entiers dans ce qu'ils font. C'est plutôt le regard de Kelly Russo là-dessus qui est
plus
critique.
Vous jouez beaucoup sur les décalages de ton. Hein.
Oui.
Vous avez des gens survitaminés auxquels l'enthousiasme très relatif de Kelly Russo répond.
Voilà. Et après vient contrebalancer Mamie Nana, qui est plus lente, plus
alors,
douce.
Mamie Nana, oui. Ce personnage, c'est quelqu'un de très bienveillant. Elle vous aime passionnellement. Elle aime sa petite fille. Elle veut la protéger.
Ouais. Ça, c'était pas un personnage prévu du tout au départ. J'avais pas du tout prévu de parler. Justement, j'avais plus envie de parler de ma famille, en fait. J'avais dans ce deuxième spectacle, qui n'a pas été facile à créer après le succès du premier. Je me demandais pourquoi en créer un deuxième. Et Mamie Nana est arrivée, je ne sais pas trop comment, parce qu'elle représente effectivement cette bienveillance. Dans ces métiers difficiles, il faut des gens qui vous encouragent. Il faut des gens qui croient en vous.
Des repères fixes.
Des repères fixes. Un amour inconditionnel de la personne qui va supporter les hauts et les bas, les dépressions et les ups. C'est quand même un métier où on passe de l'euphorie au « je suis nulle » à « génial, j'ai eu ce casting, je suis géniale ». Et on va en faire des caisses aussi à « je suis vraiment nulle ». Voilà, et c'est haut et c'est bas. Et elle, c'est la constance de l'amour. Voilà, elle représente ça et elle n'est plus là. Et la magie du théâtre et du seul en scène, pour moi, c'est qu'en un claquement de doigts, en un changement d'intonation, de cils, on peut la faire revenir. Donc on peut se faire ce bien-là de manière très simple, avec trois fois rien, quoi. Parce que ce que j'aime dans le seul en scène, mais pas que dans le seul en scène, c'est de faire beaucoup avec peu. Voilà, c'est ça que je trouve...
Alors il y en a qui ne vous soutient pas de manière inconditionnelle, c'est votre fils qui oui. dit, tu vois, moi je fais de la natation, si je ramenais aussi peu de coupes que toi, allusion à tous les castings ratés, j'arrêterais la compétition. Un soutien inconditionnel, là aussi, comme on peut le voir. La vie rêvée, sans se lancer dans une sorte d'analyse au micro d'Aligre, Kelly Rivière, à qui vous parlez ? C'était la question de votre mère tout à l'heure, enfin, ce que vous faites dire à votre mère. À qui vous vous adressez au final ? Quand vous écrivez ça au sein de votre collectif d'écriture Montreuillois, un collectif féminin d'écriture.
Oui, le collectif Créature.
Oui.
Ça, c'est un collectif dont je fais partie en tant qu'autrice, actrice, mais je n'écris pas mes spectacles avec le collectif Créature.
D'accord.
Par contre, j'ai des regards extérieurs, des collaborateurs artistiques, David Youngman, Maya Sandoz, Jali Barcilon, Sarah Siré, qui m'ont regardé improviser et qui m'aident dans la construction du spectacle. Et puis là, particulièrement David Youngman à l'écriture et Maya Sandoz au jeu. Donc quand j'écris ça, je l'écris pour le public, je l'écris mais pour toutes sortes de publics, je dirais. C'est vraiment pas un spectacle pour les gens qui font du théâtre, c'est pour les gens qui font du théâtre, mais aussi ceux qui n'en font pas, parce que en filigrane, ça parle quand même du travail, de ce que c'est que de s'épanouir dans son travail, de la difficulté qu'on a à s'épanouir dans son travail. Le travail, ça prend toutes nos journées, et pourtant c'est souvent une source quand même de mal-être. C'est dur de trouver un travail qu'on aime tous les jours, jour après jour, toute une vie. Donc qu'est-ce qui nous fait tenir, voilà, et en ça, j'espère que ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, et j'en ris. Je ris de ces moments où on se sent un peu nul, de ces moments d'échec. Et voilà. Donc c'est un hommage au théâtre, mais pas que.
Oui, il faut préciser aux auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance de voir ce spectacle ou qui ont eu la chance de ne pas encore l'avoir vu, c'est que c'est un spectacle universel qui parle à tout le monde, qui parle à moi, qui parle à tous, à toutes, parce qu'il a une vocation à l'universel. C'est en ça que vous touchez.
Oui, et puis...
On a tous eu une grand-mère, on a tous eu des gens qui nous soutenaient plus ou moins dans ce qu'on faisait, on a tous eu des doutes, on a tous eu des renonciations, tout c'est tout.
Oui, je pense, oui. À la fin au Plateau Sauvage, il y avait une petite un micro-trottoir, enfin, on interrogeait les gens sur leurs rêves, quel avait été leur rêve d'enfant. Bon, on atteint rarement son rêve d'enfant. Je veux dire, il faut le dire, on rêve tous de grands métiers et tout ça, et astronautes, tout ça, bon, on l'atteint rarement. Donc, et la vie est longue, et la vie est pleine d'épreuves. et qu'est-ce qu'on, comment on tient toute une vie.
Voilà. Alors, une longue question, réponse brève. Après avoir parlé de vos origines, après avoir parlé de votre famille, Kelly Rivière, qu'est-ce qui vous, va vous rester encore à dire dans un nouveau Seul en scène ?
Eh bien, si j'étais ma mère, je dirais j'espère rien. Hein, tu t'arrêtes là, ça suffit maintenant. Je ne sais pas. Ça, c'est le prochain volet. Est-ce qu'il y aura un troisième volet ? Est-ce qu'il n'y en aura pas ? Il faut vivre, faire vivre les spectacles, déjà. C'est déjà tout un travail de production, de diffusion. Donc, je fais vivre celui-là. Je suis très heureuse de jouer au La Bruyère pendant 2 mois parce que le Seul en scène, c'est aussi avec le public qu'on le construit. Je ne dirais pas qu'on écrit avec le public, mais quand même, les réactions du public voilà, modifient le jeu, modifient la teneur du spectacle. Et puis après, on verra. Mais peut-être pas complètement seul la prochaine fois.
Voilà qui est dit. Et enfin, une dernière citation de votre spectacle qui pourrait répondre à la question « Est-ce que vous regrettez de ne pas être devenue danseuse professionnelle ?» Kelly Ruisseau, qu'est-ce qu'elle dit ?« Le théâtre m'a sauvée. »
Ah oui, ouais, oui, c'est vrai. À plusieurs reprises dans ma vie. Ouais.
Je peux dire des choses que je ne peux pas dire dans la vie réelle.
Bah oui, je pense que c'est quand même un espace de liberté, de grande liberté, le spectacle vivant. Alors. Et voilà.
Pour retrouver cette liberté et pour vous retrouver, Kelly Rivière, La Vie Rêvée, c'est à partir du 1er mai au Théâtre La Bruyère. Vous en êtes l'autrice et l'unique interprète. Kelly Rivière, merci.
Merci beaucoup.
Tu vacilles, déhanches tes cheveux, touches tes fesses, tu marches comme tu danses et tu transpires l'ivresse, tes bracelets t'accompagnent. En chantant, tu es de celles qui gagnent, sans jouer vraiment. Tu es de celles qui peuvent s'en vouloir, pourtant quand les rimes mêlent des autres, bavent aux tournants, tes rires résonnent dans les fumoirs quand tombe l'automne sur tes bas noirs.
Buscando entre los rostros, miradas, amigas, una de esas que llegan de lejos, cuando se apagan los fuegos, la bailarina se va.
Ton épaule à vue esquisse comme une promesse à tous ces inconnus que tu renverses. Ton épaule à vue esquisse comme une promesse à tous ces inconnus que tu renverses. Tu es de celles qui trouvent sans chercher avant les caresses d'amour des grands écrans. Tes pas éclairent dans les couloirs quand tombe l'hiver sur tes yeux noirs.
Buscando entre los rostros, miradas, amigas, una de esas que llegan de lejos. Buscando entre los rostros, miradas, amigas, una de esas que llegan de lejos. Oh, oh, oh.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Women and poverty.
William Shakespeare.
Women and poverty.
Tu avais une sœur.
Women and poverty.
Extrêmement talentueuse.
Women and poverty. Women and poverty.
C'est ce qu'on raconte sur toi au village. Comme quoi t'es un peu différente. Que tu lis des livres et tout.
Mais pourquoi les hommes ne restent pas avec leur mère toute leur vie? Ça nous ferait des vacances.
Dès que tu démarres un travail, elle vient s'interposer entre ton œuvre et toi. La vidéologie.
Women and poverty. Women and poverty. Women and poverty. Women and poverty. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas présentée. Je m'appelle William Shakespeare.
Women and poverty. Women and poverty. Women and poverty.
Women. Je vous soumettrai des textes que j'aurai écrits et on les jouera.
Women and poverty.
Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être.
Women and poverty. Women and poverty. Women and poverty. Women and poverty.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
See you.
Juliette Marie, bonjour. Vous le disiez hors antenne, ça résume bien la sœur de Shakespeare. Hein.
Ce teaser,
ouais.
Ouais, il résume bien, oui. Bah, c'est, il y a une grande importance de la musique, une grande importance de l'humour. C'est, enfin voilà, ce teaser, je le trouve plutôt bien rythmé. Il me plaît, quoi. Et le spectacle est rythmé, il me semble.
Alors oui, au début, il y a Virginia Woolf et son texte Une chambre à soi. Elle y disait l'importance pour une femme qui souhaite écrire d'avoir un lieu à elle et pas un lieu dépendant de son mari ou de son conjoint. Et à l'arrivée, il y a un spectacle où deux femmes viennent se parler à 4 siècles de distance. Expliquez-nous, ouais. Ça vous, est-ce que ça correspond à la réalité de ce que j'ai vu il y a de ça une semaine dans la salle du studio Héberto? C'est ça, c'est deux femmes qui se parlent à 4 siècles
oui,
de distance.
Oui, exactement. Ben, moi, c'est un spectacle qui... Bon, alors, il se trouve que c'est Virginia Woolf qui a inventé une sœur à Shakespeare.
Alors, elle existait, c'est pas une invention de votre part.
Elle existe. Alors, Virginia Woolf l'a inventée. C'est-à-dire, d'accord, qu'elle a inventé une Judith, en tout cas, parce que Shakespeare, bon, on connaît si peu de sa vie, mais il aurait eu une sœur qui s'appelait Joan. Virginia Woolf a décidé de l'appeler Judith et de lui inventer un destin qui aurait été, qu'elle a vraiment inventé, parce qu'on ne sait rien de la vie de Joan Shakespeare. Et donc, elle lui a inventé un destin de elle aurait été aussi talentueuse que son frère, mais elle aurait vraiment pas du tout eu la même vie, bien qu'elle aurait été passionnée par le théâtre et les mots et la musique et la littérature également. Et donc, effectivement, c'est un dialogue entre Virginia Woolf et Judith Shakespeare à travers les siècles, parce que quelque part, la créature de Virginia Woolf, donc c'est-à-dire Judith Shakespeare, qui est une invention, qui est vraiment une fiction.
C'est son
inventée.
Frankenstein à elle.
C'est son Frankenstein à elle, mais en fait, par la force de cette, par la puissance de cette invention, elle a une réalité très concrète, elle a un poids très concret, historique. Judith Shakespeare, c'est vraiment le symbole de toutes les artistes manquées, de toutes celles qui n'ont pas pu écrire, de toutes les anonymes de l'histoire.
Alors, il y a deux femmes sur le plateau, dont vous, Inès Amoura, bonjour. Vous n'êtes rien de moins que Virginia Woolf. Une Virginia Woolf qui, lors de plusieurs conférences qu'elle présente en 1928 dans une université exclusivement féminine, parle de la création au féminin et de ce qui l'empêche.
Oui, en effet, on avait demandé à Virginia d'écrire une conférence sur ça, sur les femmes et la création.
Même plusieurs, hein.
Elle en a fait plusieurs. Et c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué comme question, parce que c'est très large. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est les femmes qui créent? Est-ce que c'est la création des femmes? Est-ce que c'est les créations qui parlent des femmes? Ça peut être tellement de choses. Et donc, c'est vrai que nous, ça nous a ouvert tout un champ libre pour... Bah, nous aussi, aujourd'hui, au XXIe siècle, dialoguer avec Virginia Woolf, qui dialogue avec Judith de 4 siècles avant.
Oui, sachant qu'à l'époque où Virginia Woolf a écrit, et vous le symbolisez avec un livre dont les pages sont agrafées et disposées comme en fond de scène, à l'époque, pour citer le texte, devant la surabondance d'une littérature parlant de femmes exclusivement signée de plumes masculines qui n'ont d'autres qualifications que de n'être pas des femmes, l'autrice baisse un peu les bras. Virginia Woolf baisse un peu les bras. Juliette Marie, quand il s'agit de faire ses conférences, elle se demande, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de la création par les femmes et de l'empêchement de la création des femmes?
Oui, mais c'est tout l'humour de Virginia Woolf de prendre à rebours la question qu'on lui pose et de dire, de toute façon, c'est voué à l'échec, et d'avouer aussi l'impuissance à parler de ça, des femmes artistes, puisque elle, à son époque, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, elle, on ne sait pas encore qu'il y a des femmes qui ont vraiment écrit. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle dit, il aurait été impossible, totalement impossible pour une femme à l'époque de Shakespeare d'écrire les pièces de Shakespeare. Or, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, qu'il y a des femmes qui ont écrit, mais ça, Virginia Woolf en 1928 le sait pas. Et voilà, simplement, ces femmes ont écrit sous des plumes d'hommes, anonymement, se sont suicidées. Enfin bon, elles ont eu tout un tas de destins tragiques, mais ça, Virginia Woolf le sait pas. Et elle, c'est tout ce qu'elle redoute aussi, c'est tout son cauchemar, tous ces épouvantails de finir comme ces femmes-là.
Parce que ce que dit Virginia Woolf, Inès Amoura, c'est que vu les conditions matérielles dans lesquelles les femmes sont placées, les conditions matérielles, elles ne peuvent pas écrire, elles ne savent même peut-être pas lire.
Oui, a priori, elles n'étaient pas instruites. Et puis après, en fait, écrire, ça demande, on le sait aussi autour de cette table, je crois, ça demande de l'énergie, ça demande d'être disponible dans sa tête. Ça demande... Et en fait, quand on doit se lever à 6 heures du matin, aller nourrir les poules, aller chercher l'eau, préparer le repas, s'occuper des 18 enfants qu'on a eus, on ne peut pas, on n'a juste pas le temps physique et pas l'espace mental de penser à quoi que ce soit d'autre.
Juliette Marie, ce texte de Virginia Woolf, vous l'avez pris, vous avez un peu tiré le fil et vous avez regardé en quoi ça résonne aujourd'hui, sans sursolliciter le texte. Alors, le texte, vous le laissez tranquille.
Oui, on est très fidèle. On a essayé d'être très fidèle à Virginia Woolf parce que bon, moi, je garde une grande admiration pour elle, mais on l'a un petit peu remué, secoué pour le faire résonner avec aujourd'hui. On l'a mis au présent, quoi. Et oui, voilà, c'est ça.
Les conditions de vie, on essaye de transposer. Enfin, c'est 4 siècles de distance. La relation que vous instaurez, on en reparlera tout à l'heure, la relation que vous, Inès Amoura, vous instaurez, enfin, la relation que Virginia Woolf instaure avec sa sœur cadette qui est née 4 siècles avant elle, elle est très bienveillante. Vous êtes la grande sœur.
Oui, il y a quelque chose de... En fait, il y a une énorme tendresse pour Judith. Comme le disait Juliette tout à l'heure, Judith, c'est à la fois son
Judith
cauchemar.
Judith Shakespeare, donc.
Ouais, hein. Judith Shakespeare. Ça pourrait être le cauchemar de Virginia si, en effet, elle finit par se suicider parce qu'elle n'a pas pu devenir ce qu'elle aurait dû devenir. Et en même temps, c'est son rêve. On parlait de la vie rêvée. C'est son rêve. C'est son rêve de se dire qu'une femme a pu faire tout ça, peut-être, en fait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Quand je te lis, j'ai des orgasmes intellectuels. Ce que t'écris, c'est la bombe à outrage culturel. Tu me décongèles le cerveau. J'ai atteint 39 degrés Celsius. Je veux me vêtir de ta peau pour voir le monde actuel. Je veux faire partie de ton cheptel. Je transpire des phrases que je t'ai chopées. J'en ai mouillé mon becherel. J'en ai mouillé mon becherel. Je me masse et puis j'aboie. J'ai trop hurlé en glissant. T'es torride, t'es au courant. Une rhétorique rentre dedans. Virginia Woolf, je t'ai lu. Car j'avais ma chambre à moi pour te dévorer sans fin. Tu m'as touché, tu as assouvi ma faim. Je suis touché, tes pensées ont fait ma fête. Une cascade, une comète. Quand je t'évoque, je halète. Quand t'es triste, je blémis. Avec tes pleurs, je ferai mes ablutions. Je proclame mon abjuration. Je te dédie tous mes péchés. Avec toi, je suis entrée dans une autre religion. Tu es la marée montante qui déferle maintenant. Au nom du phare, des vagues et du saint plaisir, Virginia, que ta volonté soit faite sur la terre comme au pieu. Délivre-nous du patriarcat.
La sœur de Shakespeare, c'est au studio Héberto. Cette sœur, elle a été créée par Virginia Woolf et vous, Juliette Marie, vous avez juste tiré le fil pour lui donner plus d'importance que n'en donnait Virginia Woolf dans son récit, puisque vous me le disiez hors antenne, la présence de cette sœur de Shakespeare n'occupe qu'une page et demie. Alors justement, on va assister à sa naissance, à la naissance de la sœur de Shakespeare. Extrait.
William Shakespeare, tu avais une sœur. Extrêmement talentueuse. Prénommée Camille. Non. prénommée Nanelle. Victorine. Mileva. Fanny. Artemisia. Clara. Judith. Je m'appelle Judith. Judith Shakespeare est exceptionnellement douée, comme son frère. Elle est, elle aussi, aventureuse, imaginative, désireuse de voir le monde. Mais... Elle reste à la maison.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous écoutez Radio Scénique, Radio Scénique pour lequel on retrouve Juliette Marie, metteuse en scène, et Inès Amoura, comédienne de cette sœur de Shakespeare qui est actuellement présentée au studio Héberto. Alors, c'est peut-être le moment, maintenant qu'on l'a fait naître, de parler de cette sœur de Shakespeare qui est incarnée par Solène Goua, votre partenaire de scène à vous, Inès Amoura.
Oui.
Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que c'est un personnage. Vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes la grande sœur un peu posée qui narre. Et elle, c'est cette espèce de petite créature faussement fragile qui passe son temps avec les sourcils en point d'interrogation. Est-ce que j'ai le droit ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le trajet de Judith qu'interprète Solène, c'est la libération, je pense. Alors, c'est un personnage extrêmement libre dès le départ, parce que bah, quand on a une page blanche, tout est possible. Mais après, vis-à-vis de son autrice, de sa créatrice, tout son trajet, c'est petit à petit de se libérer et de défoncer les carcans que lui mettait quand même Virginia, pour dire, mais moi, je veux choisir aussi pour moi.
Ouais, que en fait Virginia, elle écrit aussi depuis son époque. Voilà, il y a une scène entre Judith et Virginia où Judith lui dit mais attends, mais c'est ça la vie que t'as rêvé pour moi là, c'est de dire que j'ai eu 13 gosses et que j'ai pas pu écrire, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Et Virginia lui dit mais moi je c'est joli ce que tu racontes, mais je peux pas, c'est au-delà de la fiction ce que tu racontes, parce que Virginia elle parle depuis 1928, mais nous évidemment nous on est en 2026 aujourd'hui et donc on a envie que Judith qu'elle s'émancipe de son autrice aussi. Et de dire mais non, ça a été possible et c'est possible aujourd'hui l'héritage aussi qu'elle nous laisse toutes les deux, et c'est à nous de continuer d'écrire ces pages là
Elle a du mal à s'imposer, Judith Shakespeare, parce que son mari la regarde à peine. Elle lui raconte, elle lui dit je vais aller faire du théâtre. Vas-y un petit peu. C'est des scènes qui résonnent, hein. C'est marrant, hein. l'indifférence de l'homme ou du mari vis-à-vis de l'activité de sa femme. Oui,
ouais, on a jamais tranché, est-ce qu'elle ose vraiment lui parler ? Est-ce qu'elle lui dit tout ça dans sa tête parce qu'elle n'arrive même pas à formuler ce désir ? Parce qu'il y a aussi ça, l'éducation des hommes par rapport à celle des femmes. Nous, on s'est beaucoup questionné. Pourquoi est-ce que, par exemple, nous trois, créatrices, femmes, artistes, etc., pourquoi est-ce qu'on se sent illégitime en tout le temps ? Pourquoi on se remet en question tout le temps ? Pourquoi on doute autant ? Alors qu'on voit des hommes qui font le même métier, qui foncent dans le tas.
Qui ont l'air, en tout cas.
Qui ont l'air, en tout cas, de notre prisme à nous.
Bah écoutez, je vais vous laisser. Hein. Non, sérieusement, Juliette Marie, vous avez laissé la place à vos comédiennes dans le texte. Hein, vous les créditez en collaboration artistique. Donc, Solène Goua et Inès Amoura. Inès Amoura, votre collaboration à l'écriture de ce spectacle, c'était quoi ? Parce qu'il y a le texte, il y a l'adaptation d'une chambre à soi, et derrière.
Et ensuite, en fait, la première semaine de répétition qu'on a fait tout ensemble, Juliette est arrivée avec des hypothèses de Et si il se passait ça, et si il se passait ça, et si on prenait ce bout de texte, ça donnait une chanson, et si... Et ensuite, elle nous donnait entière liberté, ce qui est rare, c'est vraiment, elle nous donnait la carte cabot, même parfois. Et donc, avec Solène, on pouvait se lancer dans tout et n'importe quoi, et donc c'est des improvisations, comme ça, au plateau, qui ont fait qu'on a créé toutes les scènes de la vie de Judith, toutes les chansons qui remettent un petit peu de modernité à certains textes de Wolf. Tout, c'est venu vraiment de notre rencontre au plateau et de cette liberté à jouer à tout et n'importe quoi.
Alors il y a une scène qui est une scène de chansons, de rap, de scat, où sur un fond, Women and Poverty,
oui.
Donc femme et pauvreté, vous proclamez un texte comme si c'était une espèce de manifeste,
ouais.
Lina Samoura.
Ouais, une espèce de slam. Je crois que le mot qui a été
c'est
sorti
slam,
dans l'impro, c'était un slam. Et puis, oui, en fait, de s'amuser un peu avec tous ces mots qu'on a attribués, que les auteurs masculins dans le texte de Wolf ont attribués aux femmes et des analyses qu'ils ont fait des femmes alors qu'ils n'en étaient pas eux-mêmes. Et de s'amuser un peu avec tous ces titres-là qui parlent de tellement de choses qui n'ont pas forcément à voir avec l'expérience féminine de l'intérieur. Donc c'était... C'est drôle aussi de rigoler de ça, de rigoler du poids des mots, quoi. Et d'en faire quelque chose de beaucoup plus vivant.
Il faut préciser une chose pour les auditeurs, c'est qu'il y a une progression dramaturgique. C'est que Judith Shakespeare, elle va intervenir dans le premier tiers de du récit, mais pas tout de suite. On a entendu sa naissance. Ça veut dire que petit à petit, il y a une construction des rapports entre ces deux sœurs à quatre siècles de distance. Je ne sais pas qui veut Juliette Marie. Ça, c'est du ressort de la dramaturgie et de la metteuse en scène.
Sûr. Oui, bien sûr. Oui, il y a forcément le temps de la gestation pour Virginia, de la gestation de sa créature, parce que voilà, on lui demande de faire cette conférence et puis en fait Judith commence à apparaître mais sans mots au début, elle a des apparitions muettes et petit à petit elle va prendre la parole, elle va faire des vrais choix dans sa vie et puis elle va s'opposer à son autrice, etc. Mais tout ça c'est une lente progression, et en effet le début elle est muette et je pense que c'est le temps aussi pour Virginia de la coucher aussi, parce qu'elle a besoin de cette forme, enfin de ce personnage, pour étayer toute sa thèse, en fait, pour dire qu'est-ce qui nous reste de toutes les pages manquantes et puis est-ce qu'elle a vraiment pu écrire. C'est comme une espèce d'hypothèse, enfin d'expérience aussi presque, voilà, c'est comme on disait Frankenstein, inventons un personnage, voyons s'il a pu écrire, voyons, voilà, hop, on le balance dans la vie.
Mais c'est une espèce de laboratoire,
elle teste
et puis elle voit si ça marche.
Ouais.
Vous laissez complètement au spectateur ou à la spectatrice la leçon à tirer de ce spectacle, parce que c'est pas du tout votre but de donner des leçons de féminisme. Ce spectacle, il est féministe par essence, parce qu'on parle de femmes, on parle d'empêchement de femmes, mais il n'est pas surplombant, on n'a pas de leçons à tirer, on repart avec son sac à dos, son baluchon, ou on repart avec un sac vide parce qu'on a déposé un certain nombre de choses. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais, complètement. Bah, c'est sûr que, bah, par exemple, tous les personnages masculins du spectacle, c'est vraiment en répétition. C'était un mantra. C'était, en fait, on les aime, les personnages masculins de ce spectacle. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont pris dans leur époque. Ils peuvent pas... Enfin, voilà, l'amant de Judith Shakespeare, qui s'appelle Nick, il peut pas... Il peut pas l'entendre. Lui, il est né en 1578. Et il y a plein d'hommes aujourd'hui. Bah, et voilà, ils sont nés en 1978 ou je sais pas. Mais pareil. Enfin, je veux dire, il faut. Chacun fait ce qu'il peut. Mais en tout cas, moi, ce dont je suis certaine, c'est que le monde d'après, on va le construire ensemble, quoi. Pas les uns contre les autres. C'est sûr et certain. Et voilà, il y a une autrice un jour, une spectatrice qui a dit. Que notre spectacle était d'un féminisme éclairé et équilibré. Et je veux bien le reprendre à mon compte. Je trouve ça beau comme description du féminisme qu'on défend.
De qui est cette superbe citation « Le créateur est androgyne ».
Le créateur est androgyne », ça c'est Virginia Woolf, ça. Ouais, le tout génie est androgyne. Ouais.
Alors,
j'aurais bien aimé l'écrire, mais
elle est magnifique. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'hommes le jour où je suis venu, il y avait très peu d'hommes dans la salle. Ils ont peur. Ils se font pas engueuler. Hein. Moi, je me suis pas senti en train de me faire engueuler. Donc, je vais inciter tous les hommes à venir voir votre spectacle. Pourquoi il y a aussi peu d'hommes?
Alors, bah, ça, c'est faut leur demander. Mais non, c'est vrai que ceux qui viennent ressortent ravis. Ils se disent, des fois, on est un petit peu déstabilisés. Puis en fait, tout de suite, on se rend compte que vous faites
accueilli,
les choses avec nous.
Accueilli ouais, là-dedans, ça. Parce que c'est...
Oui, Nassamoura.
C'est aussi ça que Wolf défend. C'est une compréhension du fait qu'en fait, elle nous invite à penser au-delà du genre. Ce qui serait merveilleux, qu'on arrête de tout limiter à quel est notre genre, en fait. Mm. Et donc, du coup, de tout ouvrir. Donc, peu importe, en fait. Peu importe qui est là, il n'y a que des âmes, en fait, dans la salle à qui elle parle. Et donc, ces hommes qui viennent et qui se sentent comme ça, en fait, s'ils sont curieux, si on est curieux, de toute façon, on est curieux de tout le monde, peu importe son genre. Mm. Donc, s'il y a des hommes qui sont curieux de ce que vivent les femmes comme empêchement dans l'art, etc., ils vont avoir envie de venir, quoi.
Et c'est aussi, pour moi, toutes ces œuvres qui manquent aujourd'hui, toutes les œuvres des femmes qui n'ont pas pu être éditées, écrites, etc., elles manquent aux femmes parce que c'est des supports d'identification qui nous manquent terriblement. Mais elle manque aussi aux hommes. Et c'est toute la phrase de Virginia Woolf qui dit, voilà, le génie est androgyne, il faut réconcilier l'homme et la femme qui est en nous, qui sont en nous. Et c'est une phrase aussi très psychanalytique, je trouve, mais c'est en fait réconcilier le yin et le yang à l'intérieur de nous.
Avoir toutes les qualités que d'habitude on donne à chacun des genres, du coup on sera beaucoup plus entier.
Mmh. Alors en une petite minute, pourquoi Virginia Woolf est-elle une autrice importante, Juliette Marie? Vous avez 30 secondes.
Virginia Woolf, je sais pas, je la connais tellement maintenant.
Alors moi j'ai une réponse. Allez. Pourquoi elle est importante pour vous? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a sensibilisé à Virginia Woolf et qui vous avez rendu hommage le jour où j'étais dans la salle. Alors c'est une petite anecdote qui vous est personnelle. Je me permets de la dire parce que c'est important de savoir qu'il y a des enseignants qui dans la vie ont pu semer une graine qui a poussé. Ouais. Racontez-moi rapidement ce qui s'est passé.
C'est mon prof d'anglais de prépa de Cagnes qui s'appelait Pascal Caillé. Si tu nous entends, Pascal. Merci de m'avoir fait rencontrer Virginia Woolf et Judith Shakespeare et Une chambre à soi. Voilà, c'est lui qui m'a ouvert à ce texte, qui me l'a fait découvrir et ce texte m'habite depuis que j'ai 18 ans. Quoi. Voilà, ce personnage me hante et c'est lui que j'ai voulu prendre comme premier spectacle.
Ben voilà, vous m'avez parfaitement répondu, Juliette Marie. Voilà pourquoi Virginia Woolf est si importante. Juliette Marie et Inès Amoura, je vais vous remercier. Rappelons que vous êtes respectivement la metteuse en scène, initiatrice, adaptatrice d'Une chambre à soi de Virginia Woolf. Ça s'appelle La sœur de Shakespeare. Et Inès Amoura, vous êtes rien de moins que Virginia Woolf sur scène. C'est au studio Héberto. Merci.
Merci.
Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Un ara illichère. C'est un perroquet tout vert. Aussi vert que mon jardin devant ma chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne.
Je voudrais une chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illigère. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerais mon saxophone quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne.
De ce numéro 28 de Radio Scénique, votre émission traitant des arts de la scène sur Aligre FM 93.1. Aujourd'hui, entre une apprentie danseuse devenue comédienne et la sœur de Shakespeare, on a vu des femmes en pleine création. Merci donc à celles qui les incarnent. Merci à vous, Kelly Rivière. Vous êtes Kelly Ruisseau dans votre seule en scène intitulée La vie rêvée. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, on peut dire qu'on rit beaucoup et que votre galerie de personnages fonctionne parfaitement. Ah oui, j'allais oublier, c'est au théâtre La Bruyère à partir du 1er mai. 1er mai, jour de la fête du travail, vous travaillez.
Bah oui, enfin, quelle idée, hein, comme dirait Caitlin Ruisseau.
Cette émission, alors merci à vous également, Juliette Marie, voilà, je vais aller vous appeler Julie. Juliette Marie, vous êtes l'initiatrice et la metteuse en scène de La Sœur de Shakespeare, un spectacle féministe réjouissant et pas barbant. Vous étiez en compagnie de Inès Amoura, qui est Virginia Woolf dans le spectacle. Elle constitue sur scène un superbe duo sororal avec Solène Goua, qui joue la partition de Judith Shakespeare. C'est à voir au studio Héberto. Cette émission a été rendue possible grâce à la complicité de Pierre Demkoff, qui m'a aidé dans la préparation, qui a ciselé une programmation musicale sur mesure qui a beaucoup plu à nos invités apparemment. Si vous voulez connaître la liste des morceaux programmés ou tout simplement réécouter notre émission de ce jour, c'est sur aligrefm.org, rubrique podcast, émission radio scénique. Vous nous laissez 2-3 jours pour le mettre en ligne. Un grand merci à l'équipe technique, oui, l'équipe réduite, mais à Enrico. Et quelle équipe ? Enrico Mastrogiovanni, qui a assuré la réalisation technique aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Rappelons que Radio Scénique est diffusée les 2e et 4e lundi du mois. En attendant de se retrouver, allez dans les salles, voir du théâtre, c'est là qu'est la vie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.